Bon, ben, c'est tout l'épisode sur l'actualité au 25 janvier 2026. Ça fait un peu bizarre de cette semaine. J'ai vraiment fait des constats vraiment malheureusement très tristes sur la profession. Ça va transparaître dans les différentes nouvelles que je vais aborder cette semaine. Commençons par les Seamus Pug, 29 janvier, le Coming AI Hackers de Bruchner, l'Université de Montréal. Inscrivez-vous, c'est en ligne, sur place, machin. Moi, je vais assister en ligne. Malheureusement, j'aurais aimé ça être sur place, mais c'est impossible cette semaine de pouvoir me déplacer à Montréal. 25-26 février, le Secure, toujours. Call for Purpose, c'est termine fin cette semaine. Si vous avez des choses à soumettre, il reste encore des petites places à combler. Fait que si vous avez des choses super intéressantes, vous êtes toujours bienvenus de les partager avec nous. C'est intéressant. J'ai eu quelques belles soumissions la semaine dernière qui sont vraiment intéressantes, dans lesquelles on va pouvoir, je pense, avoir des discussions très intéressantes. Puis c'est un peu dans l'objectif du Secure d'être un peu dans la discussion, dans la communauté. Donc, venez avec nous, venez participer à la conversation. C'est super intéressant. L'année passée, les conversations étaient super sharp. Justement, c'est un peu dans cet objectif-là. Bref, le call for paper dans les show notes. 31 au 2 avril, InCyber en Europe, à Lille. Essentiellement, je vais y aller. Ça va être intéressant. Puis je vais en profiter pour voir croiser d'autres personnes. Ouais, super intéressant. C'est un beau... bref, c'est enterré. C'est mon premier voyage en Europe cette année. Puis très, très hâte. Ça fait malheureusement trop longtemps. C'est depuis novembre. 14 au 17 avril, BotConf. Le 28 au 29 avril, cyberconférence de CyberEcho. C'est confirmé, je vais enregistrer des podcasts. Levez la main si ça vous tente de venir jaser, whatever. Venez m'écrivez. Toutes mes plateformes sont disponibles. 9 au 17 mai, le NordSec. Encore là, c'est confirmé aussi que je vais enregistrer. On a un panel. J'ai hâte de voir comment ça va donner cette année, mais bref, l'année passée, le panel était super chouette. Sur une grande scène, fait que j'ai très hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire cette année et commencer à continuer cette conversation-là qu'on peut avoir et ces échanges d'idées-là. Je trouve ça très, très intéressant. Et donc, les personnes dans la France, que bref, cet échange-là est, je pense, nous enrichit tous en tant que communauté. 3 au 5 juin, le 6, je le mentionne, je vais essayer d'y aller. Essayer de ne pas rater mon coup cette fois-ci. 19 septembre, le B-Side à Montréal. Il est anticipé que le GoSec va précéder, mais je n'ai pas eu d'annonce officielle encore, donc j'imagine que ça va arriver. Mais bref, le B-Side, je vais y participer encore cette année. Je ne sais pas encore si c'est le fun, mais j'espère encore pouvoir faire un super panel. C'est à chaque année, c'est toujours très drôle, ces échanges-là. Les échanges aussi avec le public qui est un peu... différent des autres événements. Fait que, bref, c'est tout ça et super chouette parce que tous ces échanges-là enrichissent qui nous sommes et comme communauté, comment on peut avancer vers l'avant. Bref, fini ce petit chmouchi humain. Commençons avec les nouvelles. C'est assez violent cette semaine, somme toute, là, pour bien des raisons. Le premier bloc et le plus gros de ce que j'ai cette semaine, c'est au niveau de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses. Le premier sous-bloc, si on veut, c'est le sel va me tomber sur la tête. Encore plusieurs articles qui mentionnent le fait de l'usage de l'AI GPT 5.2, différentes structures que les méchants vont l'utiliser de plus en plus. Il est vrai que les groupes malveillants vont utiliser des outils d'intelligence artificielle. Sont pas plus niaiseux que les autres. Ils vont maximiser l'usage des outils. J'en ai parlé dans les dernières semaines. Ils vont continuer à utiliser ces outils-là comme, puis peut-être même un peu en plus que nous autres, parce qu'ils sont un peu plus pragmatiques et moins dogmatiques que nous sur l'usage de ces outils-là. Donc, enfin, un usage où ça paye vraiment quand ça fait et les ajouts. On le voit, ça s'en vient. Là, il y a beaucoup d'éléments dramatiques, académiques ou d'études ou de machins qui prouvent que. On ne le voit pas encore sur le terrain. Ce qu'on voit sur le terrain, notamment, c'est tout ce qui est Voidlink, qui est très intéressant, qui a été, semblerait, programmé entièrement en vibe coding. Fait qu'on a un framework complet assez puissant qui selon Checkpoint, aurait été développé tout en vibe coding. Fait qu'on commence à voir cette apparition-là de choses, mais on le voit de l'autre côté aussi. Fait qu'on est, je pense qu'il n'y a pas lieu d'être surpris. Puis c'est un peu ce qui me fascine. À quel point des fois on agit, parce que du moins le site des nouvelles est très surpris du fait que ce genre de choses-là arrive. Le réel, non, calmez-vous, c'est normal. Les méchants vont faire le maximum pour tirer le profit de ce qui se passe, donc c'est normal que ça arrive. On va le voir arriver en temps opportun, quand ça va être rentable pour eux autres, ils vont développer des outils comme ça. Il faut les anticiper, c'est une bonne chose, puis c'est un peu les articles font. Mais je pense pas que le feu est pris dans la bâtisse. Donc, il faut se calmer, mais il faut se préparer pour ce genre de choses-là. Fait qu'il faut agir de façon calme, ordonnée, structurée, mais d'aller quand même d'avancer vers ce genre de choses-là. J'ai deux fails à mentionner aussi cette semaine au niveau du AI qui sont particulièrement comiques. J'avais mentionné le fait la semaine dernière qu'un corps de police avait utilisé du AI, machin, et le chef de police a démissionné depuis. Parce que essentiellement, il avait déclaré que son corps de police n'utilisait pas le AI et finalement il a été découvert qu'il l'utilisait, donc il a été comme pris dans un entre deux choses. Et la morale de cette histoire-là, c'est que sachez que vos employés peuvent l'utiliser. Dans ce cas-ci, je ne sais pas si le chef de police le savait ou pas, mais bref, ou en tout cas la nouvelle me semblait pas claire à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, sachez que vos employés vont les utiliser, ces outils-là. Il va y avoir beaucoup de shadow AI qui existent. Et si vous êtes coincé, ben, les responsabilités ne peuvent pas se déléguer facilement. Fait que c'est pas vous autres qui détectez que vos employés le font, que ça vient de l'extérieur. C'est vous qui allez manger la chose. Donc, assurez-vous que vous contrôlez bien votre environnement. Assurez-vous que vos employés connaissent les conséquences de tel usage de AI. Et dans le cas spécifique, sachez que au moins former si vous voulez pas vous faire pincer comme ça, que l'AI peut halluciner. Et c'est le cas dans lequel il s'est fait pincer parce qu'il a halluciné, puis bon, ça a été tout ce qui était. La seconde nouvelle, c'est un chercheur qui aurait perdu 2 ans de recherche sur ChatGPT en changeant une config qui a essentiellement flushé l'ensemble du contenu de ce qu'il avait fait. Et ici, bon, je comprends qu'il y a un peu de pleurnichage public. Quand on utilise une solution cloud, parce que du ChatGPT, c'est une solution cloud comme n'importe quelle autre, et qu'on effectue des modifications, dans ce cas-ci, une modification qui avait un impact très important sur la conservation des données, il y a des conséquences à ça, et les informations sont hébergées ailleurs. Fait que j'ai l'impression que les gens ne sont pas familiers, puis c'est peut-être un peu le problème de ChatGPT ou tout le GenAI dans son ensemble. Ça nous a tellement distancés du concept que c'est hébergé dans un autre, dans des règles autres et que ne sont pas, ou ce que du moins dans le niveau contractuel, ils ont une responsabilité limitée. Fait que dans ce cas-ci, ben, c'est peut-être un rappel important qu'on a des limites, il y a des limites. Puis même sur des hyperscalers plus reconnus, il y a des limites similaires à ça. On peut se faire flusher à tout moment si on fait de mauvaises manipulations, s'il n'y a peut-être pas de poubelle pour récupérer. Sachez que vous envoyez vos données ailleurs et que vous en perdez le contrôle. Quand vous avez perdu le contrôle, c'est la compagnie qui est là, puis s'ils n'ont pas de moyens de récupération, ben vous êtes foutu. C'est donc un rappel très important que si vous avez des données sensibles ou des dans ce que c'est des conversations avec ChatGPT que vous voulez conserver, ben enregistrez les locales, faites des choses, faites vos backups. On revient aux backups aussi, là, c'est important de les ramener. Ce n'est pas la responsabilité du cloudeur ou du fournisseur de services, dans ce cas-ci, ChatGPT ou OpenAI, de fournir ce genre de choses-là. Si ce n'est pas dans le contrat, c'est pas dans le contrat, tchabai. Puis les autres, d'ailleurs, la défense qu'ils ont, c'est que quand c'est détruit, ben c'est détruit à ce moment-là. Il n'y a pas de conservation. Donc, à certains égards, pour la vie privée, c'est une bonne chose de savoir que ChatGPT détruit réellement le contenu et ne peut plus revenir en arrière, parce que ça, je me sens rassuré. Mais dans un cas ultime, un cas comme celui-là, ben, on perd aussi les éléments qui suivent par rapport à ce genre de choses. Fait qu'une erreur de manipulation a amené cette perte-là. Fait que c'est un peu, je trouve ça comme ça, c'est un fail, mais c'est un rappel quand même important qu'il faut être vigilant par ce genre de choses-là parce qu'on demeure responsable de nos données, même si on les confie à un tiers parti, dans ce cas-ci, ChatGPT, OpenAI, qui est en l'occurrence, qui, dans les faits, n'a pas de faute contractuelle, mais l'utilisateur était clairement pas au courant. Et c'est peut-être un peu l'espace où les gens ont, je pense, que des aspirations plus grandes que qu'est-ce que le cloud fait. Enfin, je pense qu'une réactualisation, puis c'est peut-être un peu notre rôle de ramener cette réactualisation, notamment avec le AI, parce que c'est vraiment l'élément où le plus grand nombre de personnes avec peu ou pas de connaissances en TI, en algo, tout cet univers-là, et des ramener à les faire comprendre qu'ils sont en train de manipuler des choses qui sont peut-être plus complexes que ce qu'ils comprennent vraiment. Et bon, bref, c'est peut-être notre rôle, donc, d'amener ça vers ça. Sous-section suivante, c'est l'humain dans tout ça. plusieurs nouvelles qui sont intéressantes et de regarder comment le AI se positionne par rapport à ce genre de choses-là. La première, c'est Schneier qui parle justement de la publicité dans ChatGPT. Ça refait un écho à ce que je mentionnais la semaine dernière avec des papiers académiques beaucoup plus appuyés que ce que je parlais la semaine dernière. Donc, allez lire le blog et les articles conséquents, mais essentiellement, ça revient à la même chose que je disais. Étant donné qu'on est dans un spectre de confiance avec l'intelligence artificielle pour une raison qui m'échappe, parce que moi, je ne vis pas dans cet univers-là, mais la plupart des gens le vivent, ce degré de confiance avec l'intelligence artificielle, vont être plus faciles à manipuler. Fait que quand que la publicité arrive, ça devient comme si un ami nous disait « Hey, va donc acheter telle affaire. » Donc, le degré de confiance et d'intensité du message est beaucoup plus important. Donc, c'est un peu dans ça que je m'inquiétais la semaine dernière. C'est un article qui le décrit plus scientifiquement que je l'ai fait. Fait aller lire, c'est très intéressant. Mais en même temps, c'est très inquiétant où on s'en va, où justement, on va commencer à chatter avec des chatbots comme ça, puis ils vont commencer à nous servir de publicité où ils vont avoir des incitatifs à nous pousser dans une direction justement pour nous influencer vers quelque chose. Fait que, c'est très dangereux. Puis bref, parce que les gens ont peu de sens critique par rapport à ce qu'ils reçoivent du AI. Parce que du moins, pour le moment, j'espère que l'éducation avec le temps nous amènera dans une zone où on va réduire cette perception que le AI, le chatbot est de confiance, ce qui est perçu par le moment. Ça me fascine, mais je connais mal l'humain pour ça, puis à quel point l'anthropomorphisme s'active et pourquoi les gens tombent si facilement dans ces pièges-là. Peut-être parce que mon scrupule par rapport à ça me protège, mais bref. On revient aussi au niveau de tout ce qui est, puis ça c'est Schneier aussi, au niveau comme pourquoi le AI est mauvais, la détection du prompt injection. Puis j'ai une nouvelle qui est conséquente aussi par rapport à ça, Google Calendar qui est capable d'aller, qui est sensible au prompt injection. Et l'essentiel de ce qu'il relate, c'est que la façon que le AI fonctionne, s'entraîne, et c'est là aussi parce que, puis ça fait lien avec la nouvelle précédente, c'est qu'on a l'impression que c'est un humain. Et donc, on a l'impression qu'il est intelligent et capable de comprendre le contexte. Ce qui est complètement faux, ça demeure une machine, ça demeure une analyse statistique et il n'est pas capable de comprendre le contexte. Là, il faisait des références à des situations qui ont été vécues, notamment de commander 18 000 verres d'eau aux commandes à l'auto dans un, je ne me rappelle plus quel restaurant fast-food, et ça l'a fait cracher la machine parce que elle ne savait pas quoi faire avec cette commande-là. Quand un humain aurait juste parti à rire et aurait juste comme même discuté avec la personne avec amusement de cette tentative-là, le AI n'est pas capable de cette mise en contexte de l'humour et de ce second degré et tout ce qui amène les subtilités du langage qu'on peut avoir comme humain. Et même dans ça, tout dépendant des cultures et des langues, cette capacité de second degré-là est différente. Notamment, le français est un peu plus important par rapport à l'anglais est un peu moins d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que l'anglais est un peu moins contexte dépendant que le français ou d'autres langues peut-être asiatiques notamment qui sont beaucoup plus contexte. Fait que, bref, tous ces éléments-là nous amènent dans un élément important, puis ça fait aussi état que le langage est complexe, le langage est très attaché au contexte. Et tout dépendant des langues et donc des cultures sous-jacentes à ces langues-là, le degré de contexte peut varier de façon très, très importante. Certaines langues, il y a peu ou pas de contexte qui est associé. C'est comme l'anglais est un bel exemple où c'est assez raide, c'est assez direct, dans lequel le français, pour l'exemple parce que je parle les deux langues, est beaucoup plus riche en termes de sous-entendus, si on veut. Et il y a des langues qui sont encore plus dans le sous-entendu que ça, notamment certaines langues asiatiques où le niveau de sous-entendu est très, très grand et le contexte qui est porté par la langue est très, très grand. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas capable de rendre bien ce genre de choses-là. L'exemple qui est là, ça en est un peu dans un contexte anglophone, mais il reste que dans d'autres langues, c'est encore plus important et on n'a pas ce degré de compréhension de ça. Fait que c'est très ce bagage-là, fait que c'est très intéressant, mais je pense qu'on va dans un drôle d'univers globalement si on regarde ça comme ça. Et à quel point on peut faire confiance à des choses qui sont aussi banales que ça. Dernière nouvelle de cette section-là, c'est une équipe qui a écrit un honeypot en AI. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des vulnérabilités dans les choses qu'on écrit. Et essentiellement, leur conclusion, puis c'est ça qui est intéressant de cet article-là, ne pas laisser des équipes non expérimentées utiliser l'AI et déployer. Et ça commence à apparaître de plus en plus dans le dossier de nouvelles, de se rendre compte que c'est dangereux de laisser des développeurs avec peu ou pas d'expérience d'utiliser le AI ou le vibe coding pour arriver à quelque chose, parce que cette compréhension-là est finalement nécessaire pour réussir à faire quelque chose avec le AI qui est utile, sécuritaire et qui puisse être robuste. Donc, on est dans un univers comme ça, fait que c'est très intéressant, fait qu'il commence à avoir de plus en plus de discours là-dessus. Ce qui me rassure qu'à terme, on va être capable de passer le message. Mais c'est un rappel très important que si on n'a pas d'expérience en algo, si on n'a pas d'expérience en développement, ben c'est très hasardeux d'essayer d'utiliser ça pour faire des choses qu'on ne comprend pas. Et je l'ai déjà mentionné dans plusieurs autres podcasts, notamment avec Cybercitoyen, avec une certaine désaccord avec le fait que des gens qui n'ont pas de connaissance d'algorithmie puissent prétendre à faire non seulement du code ou faire d'autres structures comme ça que du AI qui essentiellement est une expression algorithmique d'un certain nombre de choses, ce qui fait que les gens qui ont une bonne connaissance algorithmique ont plus de facilité que le AI que les gens qui en ont pas parce que le niveau de compréhension n'est pas tout à fait le même comment la machine fonctionne. Bref, fin des sous-sections, sinon on se situe des nouvelles AI. Le MCP, ça va pas bien. C'est cassé de partout. Là. C'est deux nouvelles par rapport à Microsoft et Anthropic. Les deux ont des vulnérabilités dans leur implantation de MCP. C'est un langage qui est relativement nouveau. Ça a environ un an. C'est tout à fait normal que ça soit ce qui est là. Le problème, c'est que le degré d'enthousiasme des gens d'utiliser un c'est même pas un produit de qualité bêta, c'est un produit de qualité alpha. Et les gens sont excités, sont trop pressés, l'utilisent, c'est brisé de partout. Fait que ma recommandation, c'est n'utilisez pas aucun MCP en production pour le moment. Le degré de danger, de risque associé avec ça est tellement grand. Les guardrails ou les mesures de sécurité qu'on devrait s'attendre d'avoir sur ce genre de choses-là ne sont pas ou peu présentes. Donc, nos a priori, parce qu'on penserait que ça sera bien sécurisé, puis c'est ça aussi un peu le problème, c'est nos a priori, parce qu'on a, on présume que c'est clairement sécurisé. C'est comme quand on passe sur un pont, on présume que le pont ne tombera pas. Ce qui, majoritairement du cas, n'arrive pas. Il y a des barrières qui font que si on a un accident, on ne tombera pas dans l'eau. Et tout ça est déjà pensé comme ça parce qu'on a une historique d'ingénierie très forte qui permet de faire des ponts qui résistent, des ponts qui sont solides et des ponts qui font que si on a un accident dessus, on ne tombera pas dans l'eau. Donc, toute cette réflexion-là n'est pas encore présente dans la MCP. Ça n'a pas fait le test du temps. Parce que aussi en ingénierie, si vous voyez, faites l'histoire disons, des ponts, j'aime bien les ponts parce que c'est un bel exemple. Il y a eu quelques fiascos de ponts dans l'histoire. Et de ces fiascos-là, parce qu'il y a eu des erreurs de calcul, des erreurs de présomption d'ingénierie, la profession assimile ces erreurs-là, les intègre et évite que ces erreurs-là se produisent plus tard. Donc, laissez les autres se planter avec le MCP, attendez. Puis de toute façon, peut-être que la bulle AI va exploser avant même que le MCP puisse faire quelque chose de mature de toute façon. Fait que soyez prudents, soyez tranquillou. Il n'y a pas d'urgence. Je ne pense pas qu'on ait d'éléments particuliers par rapport à ça. Et il y a beaucoup d'autres nouvelles dans lesquelles je n'aborde pas cette semaine qui sont que j'ai tassées parce que j'essaie de limiter le plus possible le contenu pour ne pas dépasser une heure. Relève sur le fait que l'intelligence artificielle n'est pas si payant que ça, le retour sur investissement n'est pas si payant que ça, la bulle est prévue à exploser cette année ou l'année prochaine. Les tech bros sont de plus en plus agressifs pour nous pousser à le consommer justement parce qu'ils commencent à avoir des problèmes de financement par rapport à ce genre de choses. Fait que soyez prudents. Bref, c'est pas de la magie, c'est du AI, c'est juste de l'algo. Les gens qui connaissent, qui comprennent, mais comprennent que c'est juste de l'algo. Très puissant, mais ça demeure que c'est de l'algo quand même. Ensuite, tout le volet de guardrails qu'on a dans les modèles open source. L'article est très intéressant, très technique. Allez le lire parce que je ne m'embarquerai pas dans le volet plus technique de cet article-là. Par ailleurs, il dit que les guardrails sont inefficaces parce qu'ils sont faciles à casser parce que la façon qu'ils sont implantés n'arrive pas au résultat. Par ailleurs, puis là, ça, c'est les guardrails puis les prompt injections, puis ces différentes facettes-là. Dans un contexte où on expose au grand public, je comprends que ces notions-là sont nécessaires pour protéger contre un certain nombre d'usages hostiles des modèles publics. Dans des modèles privés, pour usage spécifique, ça devient un peu plus à se questionner qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais il y a bref une réflexion à avoir. Puis je pense que puis cet article-là le met bien en lumière. Il n'y a pas de réflexion, on se lance dans le bassin et on ne s'attend pas, on n'agit pas de façon qui pourrait être cohérente par rapport à toute l'histoire, la capacité, tout l'historique d'ingénierie, ce logiciel qu'on a acquis depuis quand même les 40-50 dernières années. On fait comme fi de tout ça, puis on se balance dans un univers comme ça. Donc, c'est un peu un rappel que c'est ça qu'on doit contrôler in, out, le module, bref. Et on oublie et on se lance trop. Et la façon que c'est contrôlé, donc dans les modèles publics, open source, comment on le fait, et d'arriver au fait de contrôler la recette de construction d'une bombe, par exemple, d'empêcher que le modèle le retourne. Mais il y a des façons plus dans l'entraînement du modèle ou dans des injections autres qui le limitent plus que des guardrails plus classiques. Mais allez lire parce que c'est très intéressant comment on peut retirer des éléments hostiles par rapport à ça. Et en même temps, rendu à ce stade-ci, je pense que le nombre de personnes qui ont essayé de contourner les guardrails de différents modèles publics ou privés ou open source peuvent conclure que la recette des bombes est déjà connue. Fait qu'en même temps, à quel point on veut contrôler cette facette-là des choses. Il y a peut-être bref, il y a beaucoup de questions qui doivent se poser, dans lesquelles on ne se pose pas. Ça m'étonne, je comprends pas. C'est comme si on redécouvrait l'ETI de comme il y a 50 ans. Et c'est comme si on découvrait la nature humaine en même moment, comme quoi on est une espèce bizarre qui mène à des réactions bizarres. Puis je suis comme un peu fasciné à quel point on est étonné ou ce genre de choses-là. On tourne dans l'étonnement par rapport à ça. Bref, passons au suivant. L'Ukraine va partager des données pour des données militaires de ce qu'ils vivent pour l'entraînement de modèles AI. Ça amène toute la discussion qui fait que notamment plusieurs compagnies, notamment Google, qui avaient des règles d'usage non militaire du AI, les ont abandonnées avec le temps. Clairement, l'argent a préséance sur tout. Donc, les principes qui sont chers à bien des personnes ont été laissés tomber, notamment par les grands hyperscalers, par les grands modèles. Donc, on est dans un contexte où la militarisation du AI est rendue maintenant inévitable. Et ça en est un exemple. En même temps, on est du bon côté, entre guillemets, de la force, donc ça nous avantage. Les autres pays qui ne sont pas du bon côté de la force, n'ont pas cet avantage-là. Bon, bref, c'est une drôle de sphère où l'éthique est clairement très élastique. Personne de signal mentionne que c'est très périlleux d'utiliser des agents AI avec des messageries sécurisées. Et l'explication à ça, elle est fort simple parce que les agents AI demandent une lecture complète à toutes les informations. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes des agents AI. Ils ont trop d'accès ou sont trop d'accès au sens qu'ils ont accès à tout et on est capable de les tromper pour qu'ils dépassent nos accès à nous pour aller plus loin. Ou sont trop d'accès tout court parce qu'ils ont été mal contrôlés. Donc, c'est un peu le problème de tout ça. Et donc, l'ouverture des messageries sécurisées, notamment comme Signal, expose nos informations à des agents, expose soit que ça soit pompé vers l'extérieur, soit que ça soit des modèles d'entraînement, ou soit qu'ils divulguent des informations qui ne seraient pas supposées. Fait que c'est encore là, ça revient comme les MCP, c'est pas mature, touchez pas ça, risquez-vous pas. Si vous avez un doute, restez loin de ces environnements-là. Curl ne fera plus de bug bounty. C'est un projet open source qui est bombardé littéralement de slop déclarations. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui essaient de faire de l'argent rapidement en n'ayant aucune connaissance dans la recherche de vulnérabilité, vont utiliser des AI pour essayer de trouver des vulnérabilités qui sont en général fausses et qui viennent surcharger l'équipe open source de Curl de faire ce genre de choses. Fait que la façon la plus simple, c'est de fermer la porte. C'est un peu moche, puis ça l'amène aussi à une réflexion très importante sur comment les déviations de l'usage du AI amènent les gens un peu paresseux. On est tous un peu paresseux, mais ça vient amplifier cette paresse-là à poser des gestes pour essayer de gagner le plus d'argent possible sans considération aux effets que ça a sur le système. Je le vois dans d'autres sphères de ma profession, notamment, où l'usage du AI vient embourber le fonctionnement de différentes institutions, autant privées que publiques, qui se trouvent à devoir traiter un nombre énorme d'informations dans quel cas qui ne sont pas nécessairement pertinentes qui ont été générées par du AI. Donc, on amène dans ce contexte-là. Et ensuite, on va se plaindre que nos institutions privées et publiques vont utiliser AI pour filtrer des informations parce qu'on les bombarde de ça. Fait qu'on est comme dans une course qui est un peu malsaine. C'est vraiment très particulier, cet univers-là. Fait que je ne sais pas comment ça va donner, mais c'est pas super, super positif globalement, ce revirement de situation-là sur comment ces outils-là sont utilisés. Finalement, pas pourtant le bien commun, notamment. Président de Microsoft pousse sur les affaires de souveraineté au niveau du AI, dit que c'est la propriété du modèle et non la localisation qui définit la souveraineté. C'est oui, mais c'est non. La souveraineté est un sujet très complexe. Je l'ai mis dans l'AI et non dans la souveraineté dans ce cas-ci. C'est un sujet complexe. C'est un peu, surtout pour des Américains qui sont très exigeants sur la souveraineté de leurs informations, qui n'acceptent pas des partages à l'extérieur et en même temps sont très souples sur la souveraineté des autres. Donc, on est un peu dans cet univers-là, puis on le voit beaucoup dans d'autres sphères, notamment qui ne tolèrent pas, ou en tout cas, il y a une certaine forme d'asymétrie sur les exigences de souveraineté de bord et d'autre. On le voit notamment avec des contacts hostiles. Je reviens dans d'autres nouvelles, mais on le voit aussi cette espèce d'incompréhension-là. Mais bref, oui, mais non. Il faut que le modèle roule quand même. Peut-être pas dans un contexte territorial, mais dans un contexte protégé, chiffré. Mais c'est pas parce que tu possèdes le modèle que ton opérateur ne peut pas le voler. En tout cas, bref. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'il essaie de dire, mais je pense que c'est une espèce de tentative de justifier sa position, puis que Microsoft puisse faire le maximum de profit de cette chose. Ça fait moche, le degré de commercialisation, parce que s'il y avait un plus de pureté d'ingénierie ou de beauté du développement, bon, on serait dans un autre niveau, un peu comme ce qu'on était avant. Ça, c'est rendu, c'est disparu. Faut passer peut-être un peu de nostalgie par rapport à ces éléments-là. Dernière nouvelle, la section du AI. Tout ce que le Wikipédia a développé pendant des années pour détecter l'usage du AI pour justement filtrer les articles pour éviter qu'il y ait un usage du AI. Mais maintenant, il y a un fichier qui a été développé par une personne basée sur ces règles-là qui indique au AI comment écrire pas comme du AI. Donc, de contourner essentiellement les règles qui ont été mises par Wikipédia. Fait que c'est comme une course, c'est comme étrange cette situation-là. De voir qu'on est capable d'avancer comme ça. Fait que je pense qu'à terme, on va perdre cette course-là, détecter des choses qui ont été écrites par du AI. Mais bref, je pense, puis de mémoire, le fichier, c'est un fichier skill avec Claude. Donc, on pogne le skill, on le pousse. Et dès lors, quand on va demander d'écrire, il va écrire naturellement avec moins de stigmates de type AI, notamment avec certains mots, certaines ponctuations, certaines structures qui sont justement, qui vont réduire cette apparition, ce qui n'est pas mal en soi parce que tu sais, à terme, je pense qu'on va devoir admettre qu'on va l'utiliser beaucoup. En tout cas, si tout dépend de voir comment la bulle va se faire, si elle expose ou pas, mais bref, qu'est-ce qui se passe après? Il y a beaucoup d'inconnus de ce côté-là, mais c'est inévitable qu'au niveau de l'aide à l'écriture, le support à ça, ça va devenir inévitable. Donc, que ça soit capable d'écrire plus comme un humain, c'est pas mauvais, mais bon, bref, c'est tout ça à voir. Section suivante, souveraineté numérique. Première chose, l'Union européenne fait un appel à la proposition justement sur l'usage de l'open source sur l'écosystème. C'est fondamental. Je vois, parce que bref, si vous voulez contribuer, contribuez parce que c'est vraiment très important. Et je crois personnellement que l'open source est la clé de cette espèce d'autonomie qu'on peut développer. Les logiciels commerciaux ont un espace, mais aussi l'open source. Bref, il y a comme un espace, surtout dans l'espace commun, l'espace des gouvernements qui utilisent de l'argent public pour développer ou de l'argent public pour payer des compagnies privées. Il y a peut-être des questions à avoir parce que c'est quand même mes impôts. Puis si je peux réduire mes impôts parce que moins de dépenses frivoles en TI, je vais être très content. Et en tout cas, bref, pour la plupart des pays d'Occident, peut-être sauf les États-Unis, la charge d'impôt est quand même assez élevée. Si on peut l'atténuer un peu pour un usage plus raisonnable des TI, je serais très content. Et puis pas parce qu'on est de l'open source que ça coûte pas, ça coûte rien. Il y a des coûts. Il faut justement aider les gens qui contribuent à ces écosystèmes-là. Donc cet argent-là. Et je trouve que c'est plus périn. Bref, il y a beaucoup de choses. Puis j'en ai parlé dans les dernières semaines, mois, de cet élément-là. On parle Il y a un article qui parle du fait de se faire bannir. Il y a un groupe en Allemagne qui hate something, qui déclare les mauvaises nouvelles, les éléments toxiques qui sont sur les réseaux sociaux. Et de fait, ça vient attaquer essentiellement X, et principalement, mais pas exclusivement. Donc, de demande des déclarations d'obligation de bloquer les messages sur le territoire européen. Ça l'amène une chicane nécessairement avec les États-Unis parce que ça l'attaque un peu le volet américain. Pareil, je suis d'accord avec comment l'article est articulé. Quand on est en sol européen, ils ont autorité sur ce qu'ils font. Puis s'ils ne veulent pas que certaines informations circulent, ils sont en droit de bloquer et débloquer des plateformes qui sont là. Donc, ce n'est pas de la censure comme il est clamé par ces grands-là. C'est les tech bros. Mais c'est vraiment un contexte qui veut contrôler la façon où la liberté d'expression est utilisée en Europe. Et il faut comprendre que le modèle américain et européen sont très différents. Et je trouve ça légitime que sur leur territoire, pas l'extérieur, donc c'est pas extraterritorial, c'est vraiment l'intérieur de celui-ci que des messages haineux, notamment dans ce cas, dans le contexte qui est là, ne soient pas acceptés et soient bloqués. Que X tolère des choses comme ça aux États-Unis, c'est une chose qui soit diffusée en Europe, ça en a un autre. C'est comme de dire que les Américains ne sont pas contents parce qu'il y a des émissions américaines qui ne sont pas diffusées en Europe. Donc, il y a comme une. Faut relativer un peu, puis je pense qu'on est en train de perdre de vue que ce n'est que des véhicules d'information et que si un véhicule d'information n'est pas accepté dans un territoire parce qu'il ne correspond pas aux valeurs du territoire, je pense que c'est la liberté du territoire de l'empêcher d'exister ou de bloquer ce qui est hostile sur son territoire. Fait que bref, il y a comme une confusion des genres ici par les Américains parce que ça nuit au profil économique de ces compagnies-là. Fait que, vous allez voir, sauf que les Européens n'ont pas tendance à se tenir debout très, très fort devant les Américains. Mais je suis d'accord au fait, puis ça l'amène aussi le fait que les Européens devront, et comme les Canadiens aussi d'ailleurs, on est un peu pris avec ça, ce qui s'est passé dans la dernière semaine, de développer une certaine forme d'autonomie par rapport aux Américains, autant au niveau technologique qu'énergétique que politique, donc de se séparer, de devenir des puissances autonomes, donc de ne plus vivre sur l'hégémonie d'une grande puissance et que chaque pays devienne souverain, en somme toute, et qu'on vive en harmonie un peu sur le discours, fait que cette collaboration-là, je suis plus de cette philosophie-là. Ça fait partie essentiellement de mes valeurs. Et le dernier point, puis c'est exactement ce que je viens de mentionner, justement, que l'Europe doit se décharger de cette dépendance par rapport aux Américains. Mais cet article est un peu étrange en même temps parce qu'il y a un peu de mélange des genres sur le fait qu'il parle de panne et le fait des Américains, les pannes de plusieurs heures, même si c'est des compagnies américaines qui sont responsables, si c'est des compagnies européennes, ça va être la même chose. S'ils veulent des niveaux de service, ça se paye, c'est d'autres contextes. C'est un mélange des genres. Fait que je trouve ça un peu malheureux dans cet article-là. Mais au-delà de ça, effectivement, on doit s'assurer que les services de base et essentiels pour la société soient couverts par des mesures qui sont adéquates et qu'il n'y a pas de problème de disponibilité associé, que ce soit des problèmes parce qu'on a une chicane avec un autre pays ou que parce qu'il y a une panne technique chez le fournisseur. Les deux choses pour moi sont les mêmes. Donc, on est dans un contexte d'analyse de risque conventionnel, d'analyse de préjudice conventionnel. Et je pense que c'est le bout que les gens ne font pas. Ou peut-être qu'on ne communique pas bien aux journalistes, mais c'est très classique, c'est très de base. Il n'y a rien, il n'y a aucune surprise de ce côté-là. A priori, c'est juste qu'on n'est peut-être pas habitué de faire ces analyses de risque-là comme on devrait faire essentiellement. Section RED, il y a un... C'est Reuters qui sort un article sur un blue qui explique un peu comment les fraudes se font. L'article, il est magnifique. Je l'ai mis dans les show notes. J'en parlerai pas plus que ça parce que je peux pas remplacer la qualité de l'article. Il est très bien monté avec des beaux visuels, avec des beaux diagrammes qui expliquent les différents éléments. Partagez ça avec vos familles parce que c'est probablement eux qui vont en bénéficier le plus de l'article parce qu'il est vraiment fait pour le grand public. Fait que allez voir. Shoestack a sorti un advisory sur les GPS parce que certaines grenouillage sur la façon que les GPS peuvent être manipulés. C'est un vieux problème en soi. Ça fait plusieurs années. Le protocole est faible. Je trouve ça intéressant qu'ils sortent l'article parce que j'aime juste ça parce qu'on va parler plus d'analyse de menaces par ailleurs. Et de cette analyse de menaces-là va découler les différents éléments associés. Fait, allez lire l'analyse. C'est très intéressant. Cependant, ça demeure un protocole faible. C'est comme si on chalait encore sur du Telnet de maintenant. Donc, de s'assurer de mettre les mesures en place pour contrôler, mesurer Et un des éléments qui m'a étonné énormément sur des incidents qu'il y a eu quand même quelques mois, où on était capable de dévier des avions commerciaux en changeant les coordonnées GPS, en envoyant les signaux, parce que c'est facile à tromper, et que le système ne détecte pas qu'il y a un changement drastique qui se fait ou un changement inattendu par rapport aux instruments de bord qu'ils ont qui vont dans une direction. Tout à coup, pouf, on se retrouve soit à un autre endroit, soit on se trouve dans une autre direction qui est anormale par rapport à comment les instruments de vol vont. Fait que cette corrélation-là inexistante, je trouve ça particulier. Je suis un peu étonné, mais on parle dans un contexte parce que c'est un incident avec un avion, mais tout équipement GPS n'a pas ce degré de corrélation-là. Donc, prend les données comme il reçoit. Fait que c'est qu'il ne contrôle pas le input. Et c'est ce qui est étonnant parce qu'en cyber, c'est un des éléments de base, donc on doit contrôler le in. Fait que, il fallait lire, très intéressant comme analyse de risque. Dernier élément de cette section-là, les autobus électriques construits par les Chinois en Australie, l'analyse. Eux autres, leur setup, c'est qu'ils ne font jamais aucune mise à jour à travers les airs, donc ils n'ont pas de communication constante avec le fournisseur chinois. Ce qui est probablement la meilleure option dans le contexte pour éviter tout problème qui pourrait justement faire que les autobus soient manipulés par les Chinois. Et on amène une question plus fondamentale, à savoir qu'il faudrait peut-être arrêter de fournir de l'information aux fabricants, parce qu'on a, depuis les 20-30 dernières années, pris cette mauvaise habitude de toujours remonter vers le fabricant des informations. C'est peut-être le temps de se reposer des questions sur ce modèle-là et fonctionne plus en mode détaché ou offline pour retirer ça. Donc, si on avait des autobus qui étaient offline, on ne se poserait même pas la question. Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai abordé les autobus à Oslo qui étaient en contact avec les services chinois. Dans ce cas-ci, ben, faudrait peut-être détacher, puis ce qui nous amènerait à un contexte où ce n'est plus des équipements hostiles et la fluidité commerciale, internationale, les frontières, tout ça, serait probablement amélioré que d'avoir peur des Chinois parce qu'ils pourraient injecter des choses dans les autobus ou équipements de toute nature. Fait que, bref, c'est à réfléchir comment on aborde cette situation. Bleu, le Congrès approuve le financement de CISA, ce qui est une bonne chose, et l'information, le partage d'informations avec certains organismes extérieurs, notamment dans le privé, ce qui est une bonne chose puisque cet organe-là permettait d'échanger d'informations. Par ailleurs, comme on voit dans d'autres nouvelles, cette perte de financement-là amène d'autres éléments négatifs. Mais bref, c'est une bonne nouvelle que le partage puisse continuer. Petit article sur le fait qui semblerait que les gens chialent que l'IPv6 est moins sécuritaire qu'IPv4 parce qu'il n'y a pas de NAT. Et clairement, c'est des gens qui n'ont pas vécu quand que le NAT n'était pas existant ou n'était pas vraiment utilisé, parce que c'est un truc sur le fait de réduction de la disponibilité d'adresse IP et non une mesure de sécurité. C'est devenu dans la tête des gens une mesure de sécurité avec le temps parce que ça fait une forme de déconnexion par rapport entre le réseau externe et interne. Mais à une époque, puis encore dans certaines universités à ce jour, les adresses IP, même en IPv4, sont des adresses publiques qui sont utilisées et distribuées sur l'ensemble du campus. Donc, puis il y avait quand même des firewalls sur le périmètre, il y avait quand même des équipements de sécurité. Et le protocole IPv6 a plus d'éléments de sécurité inclus à même le protocole. Donc, c'est un drôle de débat. Probablement que des gens qui n'ont pas connu l'histoire ou devraient peut-être suivre l'histoire. Puis c'est peut-être dans un domaine où on devrait commencer à enseigner aux gens qui sortent de l'université ou s'assurer que quand on embauche des gens qui ont un minimum de connaissances historiques de comment les choses fonctionnent, pourquoi les choses ont été faites de cette façon-là, et les amener à comprendre mieux l'historique qui s'est là, sur quoi on s'appuie comme système. Microsoft Teams va rajouter une détection contre les domaines hostiles. Teams a été largement et beaucoup, je pense, à grande surprise de Microsoft, j'imagine, adopté de façon massive. Maintenant, c'est rendu un élément de communication fondamental dans beaucoup d'entreprises ou inter-entreprises. Et les mesures de sécurité qui auraient dû être réfléchies à la base n'avaient pas été parce qu'il n'y avait peut-être pas cette présomption-là que ça allait devenir aussi transverse dans l'ensemble de l'environnement. Et dans 6 ans, depuis le début du confinement à maintenant, les fonctionnalités de Teams et de collaboration inter-organisation ont énormément évolué également. À certains temps, un peu trop, parce que c'est dangereux. C'est des outils pour les gens hostiles. Mais bon, bref, en même temps, c'est une approche qui est là. Donc, ils mettent des mesures, à mon avis, un peu trop tardivement. Ça aurait dû être beaucoup plus tôt dans le design de la solution, mais bon, c'est la façon que Microsoft aborde des choses, tout en sachant que Teams est appuyé sur Skype. C'est tout le legacy de Skype qui nous revient comme ça, qui appuie et dans lequel ils doivent remodeler à travers le temps pour nous amener plus loin. Mais bref, c'est une bonne nouvelle qui commence à mettre des mesures pour protéger de l'externe. Dans la nouvelle de cette section-là, puis je la trouve très intéressante parce qu'ils disent que dans une culture saine de cybersécurité dans une organisation, il est normal que les gens rapportent des problèmes de cybersécurité. Dans les organisations où j'agis comme un V-ciseau, effectivement, je suis ultra ouvert. Je laisse les gens venir vers moi, me parler de leurs soucis, leurs inquiétudes, justement parce que c'est très important que cette communication se fasse pour que j'aide les gens à démêler les choses, aide les gens à comprendre la situation. Et s'il y a des choses à remonter, à corriger, mais que je le sache le plus rapidement possible et qu'on ne le cache pas. Parce que quand on cache un problème, ça l'empire l'incident qui est associé. Donc, c'est pas positif pour l'organisation, donc d'amener ça comme ça. C'est ma philosophie, fait que j'ai vu un article qui parlait de comment j'aborde en entreprise, comment j'aborde la situation et comment j'incite les gens à être transparents pour aider l'organisation et de ne pas blâmer les gens dans les situations parce que la plupart des gens sont pas suffisamment connaissants et c'est pas leur domaine de connaissance, donc c'est pas dans ça qu'ils sont bons. C'est mon domaine, c'est à moi à les aider. Comme un coach, comme un médecin, comme un avocat va être spécialisé dans un domaine, ben moi, je suis spécialisé dans le mien. Donc, c'est mon rôle de les accompagner dans l'organisation puis les faire sentir bien aussi. Parce que si on peur, c'est pas bien. La sécurité, c'est un ressenti. Il faut que j'amène cet élément-là. Ben, bref, très intéressant. Lisez l'article, c'est très, très, très sharp. Section suivante, privacy. Le UK va probablement adopter une loi comme l'Australie pour bloquer les médias sociaux pour les jeunes. Dans ce cas-ci, je pense que de 16 ans qui est dans le code du UK, c'est une très bonne chose, même si c'est un renversement de position qu'il y avait et qu'il ne voulait pas faire, lui, il fait. Je pense que globalement, dans l'Occident, on est en train de se rendre compte que c'est toxique, qu'il faut préserver les jeunes et les permettre de se développer intellectuellement par rapport à cette situation-là. Là, il y avait une nouvelle que je n'ai pas mise, mais au niveau du AI, il y a beaucoup de retours au monde analogue, notamment chez les jeunes. Donc, je pense qu'il y a comme un écœurement de tout cet environnement-là. Et je pense que le législateur a un rôle pour aider les jeunes à refaire comme mon enfance à moi, ma jeunesse, mon adolescence, auquel c'était des photos analogues, c'était des choses... puis d'ailleurs, anecdote, hier, j'étais au restaurant puis il y a quelqu'un qui a pris une photo classique, comme ça se faisait avant, mais j'étais comme un peu pris parce que ça avait un flash, puis comme ça se faisait genre dans mon jeune temps, fait que ça m'a un peu saisi. Mais de voir peut-être que ça existe, je ne sais pas si cette personne-là était de ce mouvement-là, mais bref, retour analogue, retour au monde réel, retour avec les contacts humains. Je pense qu'on va gagner beaucoup comme société d'arrêter de communiquer à travers nos écrans, de communiquer en personne avec des vrais mots, avec la voix. De cette façon. Fait que je trouve ça très positif. J'espère que ça va s'étendre ailleurs dans le monde, cet élément-là. L'application du RGPD en Europe, c'est en 2025, c'est 1,2 milliard d'euros d'amendes qui ont été distribuées. Il semblerait qu'ils sont à 400 déclarations ou dénonciations par jour à l'heure actuelle. Il y a deux choses là-dedans. C'est bien parce que la loi est là, elle a des dents. L'autre côté, c'est clairement un échec parce que tout le monde refuse. Parce que si on est à 400 déclarations par jour, c'est-à-dire que le message n'est pas rentré dans la tête des entreprises qu'il faut faire des actes sérieux par rapport au cyber. Fait que le côté très réglementaire européen ne semble pas avoir porté fruit au sens où il y a un changement de comportement perceptible des entreprises dans ce sens-là. Et peut-être même que dans certains cas, ces amendes-là sont juste planifiées dans les budgets et les entreprises préfèrent payer la pénalité que de faire les changements. Donc, l'objectif n'est pas atteint. Parce que l'objectif d'une réglementation comme le RGPD ou loi 25 au Québec ou l'équivalent en Californie notamment, c'est de protéger le citoyen contre ces compagnies qui sont négligentes, donc qui manipulent mon information. Dans ce cas-ci, je pense que ça ne porte pas fruit. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir là-dessus. Ça fait plusieurs fois que je reviens là-dessus. Cette information, cette nouvelle-là m'a amené à ramener encore d'amener ça de l'avant. Je trouve ça un peu moche parce que dans le fond, moi, j'aimerais ça que les institutions publiques et privées traitent mon information comme si c'était précieux. Clairement, ils ne le font pas. Il faudrait amener ça. Par ailleurs, mon expérience au niveau de loi 25 au Québec, je vois que les entreprises sont sérieuses quand même dans leur démarche, à la hauteur de leur capacité et mettent en place des moyens qui sont quand même à leur capacité. Fait que je suis quand même confiant qu'on va faire avancer les choses, du moins au Québec, pour le domaine que je vois. L'Europe, ben, cette donnée-là ne me permet pas de voir que cette situation-là a avancé réellement et donc on a un élément qui nous fait avancer. Nouvelle suivante, j'en parle juste parce que ça fait beaucoup de bruit sur LinkedIn. J'ai eu un échange justement avec une personne qui râlait un peu sur le fait qu'il y avait trop de bruit sur cette nouvelle-là. Sur le fait que Microsoft a divulgué la clé BitLocker au FBI. C'est un non-événement, somme toute. Normalement, j'en aurais même pas parlé dans le podcast parce que c'est vraiment un non-événement. Pour plusieurs raisons que c'est un non-événement, parce que c'est un mandat légal de la Cour de faire ça. Donc, le FBI a fait de la démarche. Donc, toute la démarche légale, elle est correcte, elle est honnête, elle respecte les règles. Et c'est là, c'est peut-être un peu la méconnaissance des gens sur comment ces règles-là fonctionnent. Donc, première des choses. Et la deuxième, le fait que la plupart des gens ou la plupart des compagnies stockent leurs clés BitLocker chez Microsoft, soit dans l'AD, soit dans une autre structure, dans un compte privé. C'est l'autre aspect. Et d'un point de vue légal et point de vue de la loi, si la compagnie détient la clé pour déverrouiller, elle est obligée de fournir la clé pour déverrouiller. Donc, si vous avez votre clé chez Microsoft et que Microsoft donne la clé au FBI parce que sur un mandat légitime, dans le cas d'une enquête légitime, demande la clé, là, il y a un problème. C'est un problème de compréhension des gens. Je pense qu'on n'est pas assez éduqués. Et là, il y a plusieurs facettes à ça, puis c'est assez complexe comme domaine, et clairement, on l'a mal expliqué. Puis c'est aussi valide chez Google, chez Apple, peu importe. Du moment que la clé est chez le fournisseur doit la fournir au FBI ou peu importe dans quel pays, s'il y a un mandat légitime d'aller chercher l'information, ils sont obligés de le fournir. C'est là où le chiffrement bout en bout devient important, que la clé soit en possession de la personne et non du fournisseur. Et à ce moment-là, si on va prendre un modèle comme Proton, par exemple, où la clé est de ma responsabilité, m'appartient, Proton n'a pas ma clé. Proton ne peut pas fournir ma clé parce qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. Fait que c'est un peu d'éduquer les gens sur cet élément-là, de ne pas stocker sa clé chez le fournisseur. Mais en même temps, puis là, la nouvelle qui suit par ça, parce que Shustak fait une belle analyse par rapport à ça, puis j'aime beaucoup ces analyses parce que c'est un kingpin analyse de menace. Le réel, là-dedans, c'est que vous devez faire une analyse de risque par rapport à la situation que vous vivez. Comme entreprise, est-ce que vous avez des inquiétudes que le gouvernement américain ou que les forces de police viennent chercher les clés? Si la réponse est non, il n'y a pas de problème de stocker ça là. Fait que c'est un contexte d'analyse de menace, analyse de risque qui doit être faite pour arriver à cette situation-là. Si ça l'est, ben là, à ce moment-là, trouvez-vous une solution de BitLocker ou autre qui ne stocke pas la clé chez Microsoft. Donc, dès lors, le FBI ne peut pas aller chercher. Si c'est ça votre modèle sur lequel vous voulez vous défendre. Donc, bien mettre ça en perspective que cette situation... Bref, c'est d'un weirdness, cette nouvelle-là. Si vous ne voulez pas que ça soit découvert, n'ayez pas la clé chez le fournisseur. Mais en même temps, ne pas avoir la clé chez le fournisseur, comme c'est dans le cas de Proton, si je perds mon mot de passe, je perds tout mon contenu parce que Proton ne peut pas m'aider à le récupérer, ce contenu-là. Donc, il faut vraiment être conscient de tout ce que ça comporte. Et parfois, on préfère se défendre dans le fait qu'une clé BitLocker fait que si je perds mon laptop dans la rue, le voleur sera prêt à le récupérer parce qu'il ne pourra jamais chercher ça chez Microsoft. Moi, c'est un modèle qui me convient. Si je veux chercher cacher des choses de Microsoft ou des forces de l'ordre, c'est pas un bon modèle. Bref, faut l'analyser comme ça. C'est très important. Puis je pense que c'est ça qui a amené. Puis d'un point de vue technique, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises perceptions de l'univers là-dedans. Et les journaux et LinkedIn, tout ça a amplifié une situation qui n'aurait pas dû être de cette amplitude-là parce que c'est complètement un non-événement. C'est un mandat légal. Ils sont obligés. Bref, ça, tant qu'à moi, ça arrête là. C'est un non-événement. TikTok est en train de basculer aux États-Unis, en train de basculer de propriété chinoise aux propriétés américaines. Et la nouvelle qui sort par Wired, c'est qu'il y a beaucoup plus d'informations qui sont récoltées par TikTok depuis qu'ils sont basculés aux États-Unis. Et ce niveau d'information-là est comparable à Instagram, Meta, machin. Donc, essentiellement, c'est lequel des choses qu'on doit considérer par rapport à ça, est-ce que c'est mieux que ce soit les Américains? Pour les Américains eux-mêmes, peut-être que cette situation-là peut faire ça sur les Chinois. Par ailleurs, ça constate que les États-Unis, en tout cas du moins dans ce cycle-ci, sont d'un état de surveillance très, très fort. Le fait que TikTok ait les données aux États-Unis, c'est même peut-être plus problématique à certains égards parce que l'usage de TikTok va pénaliser beaucoup de gens. Quand c'était en Chine, dans un contexte américain, dans le contexte qu'on vit, les données étaient protégées contre le gouvernement américain. Là, les données sont plus protégées. Puis même, ça va jusqu'à récolter la position fine. Donc, ils savent exactement à quelques mètres où vous êtes quand vous faites chaud. Fait que c'est très particulier. Ça amène des réflexions. Puis je pense qu'on a des réflexions beaucoup plus profondes à avoir sur ce commerce de surveillance dans lequel on vit. Et encore plus dans un contexte où les États-Unis ont basculé d'un état de bienveillance à un état de surveillance et de contrôle absolu, notamment avec la répression dans laquelle ils vivent actuellement. Donc, c'est quand même un avertissement assez important de faire attention à ce qu'on donne aux compagnies et qui deviennent possibles à l'État de venir chercher. Donc, c'est à se questionner très, très fortement sur ce genre de choses-là. Corbin fait référence à un outil social analyseur qui nous permet d'extraire tout ce qu'on a, notre footprint sur les médias sociaux, donc l'OSINT essentiellement. Très intéressant à utiliser, recommandé d'utiliser pour soi, ne pas utiliser sur les autres, c'est méchant, machin. Mais c'est très intéressant de voir notre footprint. Dans la nouvelle section-là, un peu ce que je mentionnais avec les clés comme dans le cas de Microsoft, iCloud, quelqu'un a découvert que les fichiers n'étaient pas effacés, même s'ils sont protégés de façon avec la fonctionnalité avancée. Le réel, c'est que le contenu est chiffré, donc Apple peut le savoir. Donc, effectivement, contrairement à BitLocker, Apple ne peut pas le voir ou le donner. Et l'analyse qui en est faite par la personne en question, qui est intéressante quand même, ce qui m'apparaît, c'est du Sparse Bundles, qui est utilisé chez Apple quand on fait des backups, notamment Time Machine, qui coupe en fragments de 4 MB le contenu. Fait que si le fichier qui est modifié, le spare bundle, donc la séparation de choses. Puis il l'explique un peu, mais pas exactement comme ça, parce que clairement, je pense qu'il n'y a pas une compréhension fine où je crois qu'il n'a pas regardé du côté comment fonctionnent les outils standards d'Apple, mais ça ressemble vraiment à ce type de fonctionnement-là, donc par bloc, par bande, comme on appelle dans Spare Bundle, de séparation des différentes choses. Donc si Apple le conserve, puis qu'il conserve 30 jours, 60 jours, c'est pas très grave, le contenu est chiffré. De toute façon, puis c'est comment la séparation fait que c'est pas super grave. Question d'optimisation de performance, ça fait que si c'est chiffré, je possède la clé, c'est pas super grave. Mais je trouve ça intéressant cette analyse-là malgré tout, et peut-être une méconnaissance de comment fonctionnent les systèmes de backup standard d'Apple, comment les hashes se font par bloc et ainsi de suite. Donc, très, très intéressant de cette analyse-là, mais la portée est relativement limitée au niveau de l'inquiétude. Dernière section d'hiver, le CISA ne participera pas au RSA cette année sous le prétexte d'un usage judicieux des fonds publics. C'est toujours questionnable de savoir à quel point, puis je l'ai vu aussi en France aussi, il y avait eu certaines frictions avec le FIC à une certaine époque, où les personnes de l'appareil public ne participent pas à des événements comme ça. Il y a des questions d'usage de fonds publics, ça je suis d'accord, puis dans certains égards, c'est très important d'avoir fait un usage judicieux. Mais en même temps, de priver les gens de se faire former, c'est questionnable, de se faire réseauter, parce que c'est très important d'être des humains. Donc, de ce réseautage-là, on retire beaucoup d'informations. Puis, de mon expérience, où je suis rendu dans ma carrière, le réseautage, mon réseau, a une valeur énorme par rapport à ma connaissance, ma capacité d'avoir la connaissance, d'avoir l'information de tout ça. Donc, de limiter les capacités des employés de l'État américain, de l'avoir, ça vient limiter. Une année, c'est pas grave. Si ça se continue dans le temps, c'est beaucoup plus grave. On le voit dans d'autres gouvernements qui coupent littéralement ses employés d'accès à la formation ou aux événements. Même chose dans les compagnies privées. Ça limite la capacité de ces compagnies-là ou ces institutions-là d'avancer, d'être plus performantes en cybersécurité. Fait que je trouve ça un peu moche, mais bon, bref, c'est comme ça. Nouvelle suivante, you got fish. C'est-à-dire, si tu te fais attraper, c'est normal, t'es humain. J'ai mis l'article là parce que c'est intéressant, surtout pour partager dans votre entourage, parce que même les experts se font avoir par du phishing, de l'hameçonnage. C'est normal, c'est fait pour nous faire avoir et nous tromper. Et si on est dans un mauvais moment, on va tomber dans le piège. Je suis tombé dans le piège plusieurs fois. L'article est assez complet, c'est assez intéressant, fait que ça va peut-être vous donner des façons de communiquer ça dans votre entourage. C'est pour ça que je vous le partage. Schneier dit que le vote par Internet, ce n'est pas sécuritaire. Il a raison. Internet n'a jamais été conçu pour faire ce genre d'activité-là. J'en parlais notamment pour le contrôle de l'âge, le contrôle des identités. Mais c'est toujours ça, c'est des infrastructures qui ne sont pas conçues pour ça, qui ne fonctionnent pas. Et on ne met pas les vraies énergies structurelles ou les vraies réflexions structurelles pour améliorer cet élément-là, pour le le twister pour que ça arrive. Fait que dans l'état actuel des choses, c'est un no-go. Puis je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Allez lire la lettre complète, elle est très intéressante. Il remet les choses en perspective. Et je termine avec une nouvelle un peu plus diverse. Essentiellement, en 2026, il y a un effort très grand pour amener les gens au bureau. En TI, c'est un peu moins populaire, cette approche-là, ou en tout cas, c'est moi pas que c'est populaire dans les autres, mais l'effet contrarien est beaucoup plus grand. Parce qu'on est dans un domaine où ça fait beaucoup plus longtemps qu'on fait du télétravail, ça fait beaucoup plus longtemps qu'on est dans cet environnement-là, où il y a une énorme souplesse dans laquelle on vit, qui a été accentuée pendant le confinement, mais qui était déjà présente avant, et qu'on oblige de façon aveugle maintenant de retour. Donc, on va voir prendre des exodes. On voit déjà dans plusieurs années les mouvements qui se font parce que les gens ne tolèrent pas. On perd beaucoup les seniors par la connaissance. Et l'élément principal là-dedans, c'est pas tant le retour au bureau qui est l'élément clé. Et le fait que ça soit purement dogmatique avec aucune raison crédible. Et c'est pas parce qu'on est tout le monde dans le même bureau qu'on est productif. Je me rappelle ma vie pré-confinement. C'est pas parce que j'étais au bureau que j'avais des éléments, j'étais plus productif parce que ça. J'avais des collègues qui étaient toxiques, que c'est beaucoup plus difficile de travailler ou d'être dans un environnement calme dans certains contextes que dans d'autres. Donc, un n'égale pas l'autre. Donc, il faut que ce soit un gestionnaire qui soit capable d'amener ses équipes à travailler. De les amener dans un contexte positif, que ce soit à distance, hybride, bureau, machin. Ça a, dans les faits, peu d'importance. C'est la qualité du leader qui va avoir une importance très importante. Et bon, j'aimerais enrichir d'autres épisodes là-dessus, puisqu'il y a effectivement des changements au Canada beaucoup très importants sur le retour au bureau, notamment en TI. Je vais faire revenir des anciens des collaborateurs avec qui j'ai déjà abordé le sujet. On va rafraîchir notre perception par rapport à ça, faire comment on le vit et comment on apprend les choses. Bref, ça fait le tour des nouvelles cette semaine. Ça a été très long, mais j'avais quand même compressé énormément. Puis clairement, les sujets en tant que tels, je n'ai pas réussi à compresser au verbal, même si j'ai compressé le nombre de nouvelles totales, parce qu'il y a beaucoup de sujets très importants et à laquelle j'avais peut-être des opinions fortes à partager sur ceux-ci. J'ai encore diffusé sur Discord cette semaine. Je prends le faire la semaine prochaine. Le problème est peut-être plus parce que je ne suis pas capable de prévoir quel âge je vais être prêt à enregistrer parce que vie, hein, c'est la vraie vie étant ce qu'elle est. Donc, bref, soyez à l'affût du Discord du Secure, parce que c'est sur le Discord du Secure que j'enregistre cet épisode-là. En tout cas, bref, je le diffuse de façon, si vous voulez participer. Pour le moment, il n'est pas dans un modèle d'interaction. Peut-être plus tard. Et peut-être à terme, peut-être que ce n'est pas la bonne plateforme. Peut-être que je vais utiliser plus la plateforme Riverside pour effectuer ce type de choses-là avec des moments plus précis. Mais à l'heure actuelle, je ne suis pas très. Pas suffisamment structuré pour amener l'enregistrement à un moment spécifique. Bref, je vous souhaite une excellente semaine. Le 29, il y a un événement à l'Université de Montréal. Allez-y si vous êtes capable. Vos feedbacks sont toujours super appréciés. Revenez-moi très ouvert. Vous avez des sujets, ma façon d'aborder les choses. Vous voulez discuter, vous voulez faire des sujets, vous voulez aborder des sujets parce que je l'aborde comme notamment avec CyberCitoyen. J'aborde des sujets plus précis sur certains spectres. D'autres personnes qui s'en viennent, qui ont des collabs plus permanentes sur le même axe que ça, ça va être super intéressant. Donc, bref, j'écoute énormément ce que vous dites. J'apprécie énormément le retour parce que ça l'amène. Je pense que ça module la façon que je suis capable de contribuer à la cyber résilience ou cyber machin dans lequel. Donc, bref, je vous souhaite une excellente semaine.